l'engagement, ça peut être dur parfois, en fait, parce qu'on peut parfois se sentir tout seul et aller à contresens de ce que pensent d'autres personnes. Et ou alors, à la fois, ça peut être beaucoup de choses d'un coup. Et on peut être très vite fatigué aussi de s'engager à un moment. Donc je pense qu'il faut trouver son juste équilibre dans l'engagement, être toujours OK avec ce dont on souhaite faire quand on s'engage. C'est-à-dire être aussi en capacité de dire non.
Hello, c'est Maëlys. Je suis responsable de communauté aux Pépites Vertes. Je vous accueille aujourd'hui dans Au Cœur, un podcast imaginé suite à mes différentes rencontres avec les pépites de ce monde et les pépites en devenir. À leur contact, j'ai pu vivre l'importance de discuter ensemble du vécu de l'engagement et des émotions que l'on traverse lorsqu'on s'éloigne de la voie toute tracée. Dans Au Cœur, j'invite des jeunes qui ont fait le choix de l'engagement professionnel pour répondre à des émotions qu'ils prenaient aux tripes. Ces pépites nous racontent leur histoire et leurs questionnements, de la colère et l'émerveillement, du renoncement à l'engagement. Bonne écoute! Dans cet épisode, j'échange avec Yanis qui s'engage pour l'éducation de la jeunesse. On discute des moments d'incompréhension et de solitude, de l'importance du collectif et de la coopération, et de son mot d'ordre, prendre du plaisir dans tout ce que l'on fait. Hello Yanis, comment vas-tu?
Hello Maëlys, écoute, ça va très bien en ce lundi soir très paisible à Strasbourg.
Magnifique, je suis trop contente de te recevoir dans Au Cœur, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Avec grand plaisir, je suis trop content.
Et bien écoute, pour commencer ce moment ensemble, est-ce que tu peux un peu te représenter? Qui es-tu Yanis?
Ouais, et ben du coup je m'appelle Yanis, ça n'a pas changé depuis 30 secondes. je travaille chez Enactus comme le responsable de la région Grand Est et du programme étudiant pour le Grand Est aussi. Et au-delà de ça, je crois que je suis un passionné sur les sujets d'éducation et de faire en sorte que nos plus jeunes soient à fond tout le temps.
Trop cool. Est-ce que tu peux justement nous dire deux mots sur Enactus? C'est quoi comme structure? Qu'est-ce que vous faites?
Oui, Enactus, c'est du coup une entreprise sociale hybride. Pourquoi? Parce qu'on a un pôle associatif avec Enactus étudiants et Enactus lycéens, et aussi une SASU, qui est Enactus Organisation. Et en fait, notre but, c'est de faire en sorte de développer les compétences de chacun, donc quel que soit leur âge finalement, pour agir au service de notre société et de notre planète.
Bien. Et toi, tu fais quoi exactement dans tout ça? Tu nous as dit responsable programmation?
Ouais, je suis le responsable de l'antenne Grand Est. Donc, je m'occupe de toutes les activités d'Enactus sur le territoire du Grand Est, par définition, et aussi du programme étudiant sur la région. Donc, plus spécifiquement, là, c'est toute la partie plutôt pédagogie de ce qu'on va faire, comment on accompagne nos étudiants sur le territoire, et aussi en lien avec mes homologues des autres régions, de concevoir toute notre pédagogie national sur ce programme-là étudiant.
Génial. Du coup, écoute, pour commencer, on va rembobiner le film et revenir un peu au début de ton engagement. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi, comment tu rentres dans le bain?
Oui, très bonne question, parce que finalement, je pense que ça remonte à il y a assez longtemps. Finalement, quand j'étais jeune, à partir du moment où mes parents m'ont envoyé en centre de loisirs, plutôt où j'ai pris les premiers trucs de l'engagement, où on faisait plein de projets avec les animatrices et animateurs, d'ailleurs cœur sur eux à Lille-sur-la-Sorgue. et du coup ça vient de là, et donc je me suis très vite engagé pour être animateur en centre de loisirs et à faire plein de projets, mais finalement les projets que je proposais, c'était pas moi qui les concevais, c'était vraiment avec les petits, et quand je dis petits, c'était aussi des pré-ados qu'on concevait les projets, et en partant de leur envie à eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager, parce que je me suis aperçu que si on donnait la voix aux plus jeunes, en fait, ça pouvait faire de belles choses pour eux, et en fonction de ce qu'eux avaient envie.
Plutôt. Trop bien.
Donc ça démarre de là, plutôt, ouais.
Ouais, et tu m'avais du coup dit qu'il y avait un peu cette volonté, du coup, de rendre tout ce qu'on t'avait apporté, que toi, t'avais vécu. Et puis, du coup, après, comment, en grandissant, ça continue à évoluer, tout ça?
C'était toujours en grandissant, c'était toujours avec l'envie de faire un peu plus que ce qu'on me proposait par exemple au lycée. J'allais finalement pas au lycée pour les cours, mais j'allais pour monter des projets pour les autres finalement, et le fait de fédérer finalement tout un mouvement autour d'une même envie qui était de vivre mieux au lycée par exemple, je pense à ça, et puis très vite dans les études sup, de s'engager dans des assos qui étaient proposés dans l'établissement dans lequel j'étais, pareil au lycée finalement, dans les assos à côté, et toujours en collectif, parce que je crois que moi, mon engagement, il se résume vraiment en commun, parce que ouais. Je crois fort en l'esprit du collectif pour avancer.
Le pouvoir de la coopération.
Exactement, finalement.
Et du coup, tu rejoins Enactus en tant que étudiant bénévole. Tu étais à Sciences Po Lyon à l'époque. Et c'est là qu'il y a un peu des choses aussi qui changent pour toi dans cet engagement et dans ce parcours.
Oui, complètement. Pour le coup, il y avait une asso Enactus à Sciences Po Lyon et j'en avais jamais entendu parler avant même d'avoir une conversation avec quelqu'un qui était en Master 1 à Sciences Po. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas que des métiers dans les relations internationales ou plutôt ce qu'on appelle dans les affaires publiques à Sciences Po. J'étais ouvert qu'à ces milieux-là, finalement. C'est vraiment rentré dans le moule de Sciences Po. Hey, je vais faire des relations internationales, etc. Et alors, même si ça reste un petit peu au fond de moi-même, en découvrant Enactus, je me suis aperçu qu'il y avait des métiers vraiment d'engagement, plutôt, et qu'on pouvait s'engager soi-même dans son futur professionnel, et que l'engagement ne soit pas que à côté, finalement, mais qu'il soit un pendant de tous les jours. Et donc, c'est pour ça qu'Enactus m'a vraiment appris beaucoup de choses, à la fois sur moi, dans l'idée de me dire que j'avais envie de m'engager pour la société ou la planète, mais aussi d'aller chercher quelques compétences que je n'avais pas du tout, comme la gestion de projet. Finalement, j'en avais fait un petit peu avant, mais je n'avais pas du tout l'habitude d'apprendre à collaborer en gestion de projet. Et aussi le fait d'être avec des personnes qui agissent avec les mêmes valeurs, que sont l'empathie, le plaisir. J'ai mis beaucoup de sens derrière ces deux mots. Et aussi avec l'envie et la vérité. La vérité de l'engagement, c'est aussi pas s'engager pour s'engager, mais se dire j'y crois dans ce que je fais et du coup j'avance.
Et comment toi, du coup, tu as vécu tout cet engagement? Qu'est-ce que ça a provoqué en toi, ce cheminement?
Eh bien, j'aimerais bien casser une image préconçue qu'on a, que l'engagement, c'est super tout le temps, et c'est trop chouette. L'engagement, ça peut être dur, parfois, en fait, parce qu'on peut parfois se sentir tout seul et aller à contresens de ce que pensent d'autres personnes, et ou alors, à la fois, ça peut être beaucoup de choses d'un coup, et on peut être très vite fatigué aussi de s'engager à un moment. Donc je pense qu'il faut trouver son juste équilibre dans l'engagement, être toujours OK avec ce dont on souhaite faire quand on s'engage. C'est-à-dire être aussi en capacité de dire non parfois, et c'est très difficile quand on est des personnes engagées, de savoir dire non. Et surtout de toujours prendre du recul et se dire est-ce que j'agis parce que j'en ai envie ou est-ce que j'agis parce qu'on m'y oblige ? Et je crois qu'on n'est jamais obligé de s'engager, finalement. Mais quand on a envie, je pense qu'il faut y aller.
Ouais.
Et donc, ça a à peu près, il y a un peu toutes ces émotions-là qui sont là quand on parle d'engagement, parce qu'il y a des phases qui sont hyper dures. Notamment, je pense au lycée, où on peut très vite être en mode l'intello ou le lèche-botte du lycée. Alors que finalement, non, c'est juste ce qu'on a envie et c'est soi, quoi.
Tu m'avais aussi expliqué que si tu avais écouté peut-être un moment ton cercle d'amis et ta famille, tu serais peut-être pas aujourd'hui chez Enactus et que ça avait été pour toi des grands moments de solitude, que tu t'es senti seule dans ce quotidien, dans tes questionnements et que tu avais presque même peut-être ressenti de l'énervement envers toutes ces personnes qui remettaient en question tes choix. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ça?
Je crois que tu vises juste dans ta question. C'est vrai que quand on a un parcours, j'allais dire quand on fait Sciences Po, tout simplement, très vite les personnes s'imaginent que tu vas devenir président de la République.
À la fin, chose simplement, finalement.
Exactement, tout simplement, chose qui est archi faux. Ou alors tout le monde imagine que tu vas finir dans des grandes institutions et avoir une carrière, j'allais dire, noble. Déjà, pour moi, il n'y a pas de carrière noble ou pas noble. Ça, c'est vraiment ce que je pensais depuis le début. Et en fait, ouais, c'est toujours ce sentiment-là de se dire « Ah, mais punaise, mais les autres, ils espèrent toujours mieux pour toi. » Enfin, c'est un peu ce sentiment que tu as de « Ah, mais les autres, ils espèrent toujours que tu ailles plus loin, etc. » Et en fait, je suis très bien là, en ce moment chez Enactus, j'ai envie de dire, et dans ce que je fais, et de m'engager pour ces lycéens et ces étudiants qui ont toujours envie d'aller plus loin et qui pointent des vrais sujets de société. Et donc, plutôt le sentiment d'être seul parfois, parce que ne pas se sentir... écouté ou du moins entendu, parfois c'est assez dur. Et il faut toujours s'entourer, j'allais dire, des bonnes personnes, ou alors prendre la vie, c'est prendre la vie de tout le monde, c'est complètement d'accord. d'aller chercher un peu l'avis de sa famille ou de ses amis. Mais il y a une chose qui m'a convaincu après cette expérience, c'est que finalement, c'est toi, enfin, soi qui fait le choix. Et il faut être OK avec ça. Et j'ai vraiment un mindset dans ces cas-là. C'est tente, au pire des cas, tu échoues et tu pourras te relever. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir échouer. Et c'est de ces échecs qu'on apprend. Et j'y crois vraiment.
Et quand tu dis c'est toi qui fais le choix, justement, de prendre ce choix différent de ce que tout le monde autour de toi pensait pour toi, ça a été compliqué ?
Ouais, beaucoup de remises en question, forcément, quand il y a le moment de l'annonce du choix, où là tu te dis, ok, je vais m'en prendre plein la tête.
Ouais. ça t'a fait douter aussi ?
Ouais, bien sûr. Et c'est horrible parce qu'en plus, généralement, c'est que je prends l'avis de tout le monde. Je l'entends, ou du moins je fais semblant de l'entendre, parfois. Puis je fais mon choix, et je ne dis rien jusqu'au moment où mon choix a été validé et où la piste s'est enclenchée. Et après, je leur dis, un peu comme devant le fait accompli, et de « j'assume maintenant ce choix-là ». Et donc oui, ça nécessite des débats, de l'explication, etc. Mais finalement, après, quand ils voient que tu es heureux dans ce que tu fais, eh bien, tout le monde est content, j'allais dire. Même si parfois, ils ont toujours ce vice à aller te challenger dans... Ouais. Dans ce que tu fais, et ça, je veux dire, maintenant, je les entends plus. Si, j'entends toujours, parce que pour moi, ma famille et mes amis sont vraiment importants dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils peuvent me dire. Mais j'essaie très vite de me retourner sur mes choix. Et faut pas se dire que c'est égoïste. En fait, c'est toi qui vis la chose au quotidien. Faut y aller.
C'est ta propre vie, finalement.
Exactement.
Et donc, du coup, tout ce parcours, tout ce cheminement, toutes ces révélations, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie au quotidien? Est-ce que tu imagines que ça a quand même bousculé beaucoup de choses d'avoir un peu cette révélation en master de la voie toute tracée et finalement de se dire non, finalement, je vais aller faire ce que un projet associatif finalement devient ton métier?
Ouais, beaucoup de questionnements encore. Hein. Mais en vrai, ça te pose souvent des questions. Je prends un cas précis, c'est parfois il va y avoir une offre d'emploi ou de stage qui va passer dans un milieu tout autre que celui dans lequel je suis. Et je suis là en mode, quand même, hein, ça peut être intéressant et tout, ça me plairait bien, etc. Et après, bah, c'est de suite de me reconnecter au sens de mon métier. Mmh. Où moi, ce qui me plaît actuellement, c'est que je suis au contact de jeunes qui veulent agir soit pour la jeunesse, soit alors pour plus grand. Et finalement, mon seul objectif, c'est de, par leur engagement, de leur apprendre au maximum dans leurs compétences. Et en fait, c'est ce qui m'anime tous les jours. Et donc, à chaque fois, j'essaie de me reconnecter au sens. Et le bouleversement que ça a le plus changé, c'est essayer de casser, finalement, dans mon quotidien, l'image préconçue que j'avais en faisant mes études et qu'on a un parcours tout tracé. Et ce qui me rassure, c'est le fait de pouvoir me dire, ben, aujourd'hui, je fais ça, ça me plaît. En fait, si demain, ça me plaît plus, ben, je pourrais me réorienter ailleurs. Soit en reprenant des études, soit en allant vers un autre domaine, et ce sera aussi OK, parce que finalement, bah, faut tenter, quoi. Faut y aller.
Ouais. Et parallèlement à tous ces questionnements que tu as eus sur ton orientation, est-ce que tu as eu aussi des moments plus ou moins difficiles, ou pas d'ailleurs, mais sur les questionnements justement que tu as... sur les problématiques que tu as pu mettre en lumière en te renseignant sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux sociaux? Est-ce que ces problématiques-là, elles aussi, elles t'ont impacté, toi, dans ta façon de vivre ?
Plutôt, j'ai envie de dire plutôt. J'avoue que j'étais moins sensible, enfin, ça me touchait, mais j'étais moins sensible personnellement aux enjeux environnementaux. Ouais. Pour moi, c'était vraiment des actions un peu de tous les jours, pour le coup, mais c'est moins ce qui me prenait aux tripes, j'ai envie de dire. Moi, c'est vraiment les sujets sociaux. Enfin, aujourd'hui, l'idée de me dire qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école, ou alors des jeunes à qui on... Enfin, qui n'ont pas accès à tout ce qu'on peut proposer. Et ça paraît hyper large, mais il y a plein d'opportunités qui sont refusées à plein de personnes parce qu'ils viennent de tel ou tel milieu. Enfin, plutôt, ces injustices et ces inégalités me rendent un peu fou, parfois. Et ben, ça m'affecte plutôt, et ça m'a fait lier à beaucoup d'introspection aussi, à ce que j'ai pu vivre à côté, que ce soit à la fois du harcèlement ou des moqueries perpétuelles. Ou autre, ben, faut être aussi prêt à se confronter, à se dire, ben, en fait, je m'engage pour ça, mais il y a une raison aussi. C'est peut-être que j'y ai été confronté avant. Et ça, c'est la partie la plus dure, de savoir distinguer son vécu et de son action. C'est là, parfois, la plus dure, parce que ça peut très vite être pris au cœur et bouleverser beaucoup de choses dans son engagement.
Et ça, tu as réussi à du coup, à l'apprivoiser cette, je ne sais comment qualifier, mais...
Oui. Je pense que si des personnes m'entendent parler d'introspection, là, qui me connaissent, elles vont rire parce que j'évite tous les sujets d'introspection possibles. Okay. Pour ces raisons-là, un peu, c'est un peu mon mécanisme de défense. Aujourd'hui, j'agis parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ces thématiques-là, mais je ne suis jamais allé chercher le pourquoi j'agis, même si je le sais intérieurement. C'est juste un peu un mécanisme de défense de repousser tout ça, ouais.
On peut pas tout gérer en même temps.
Exactement.
Chaque chose en son temps. Quand on avait discuté aussi en amont, tu m'avais expliqué tout ce cheminement, tout ce processus de il y a des choses qui te tiennent à cœur, qui étaient dans ta vie perso, du coup ça devient ta vie professionnelle et que ça avait pas été facile tous ces changements-là. Comment tu dirais que ton rapport peut-être au travail a évolué ? On parle beaucoup un peu de la distinction vie pro, vie perso. Est-ce que toi, ça, c'est des choses qui te questionnent ? Comment toi, ça aussi, ça a bougé pour toi ?
Je pense que c'est un peu le problème, et je mets problème vraiment entre guillemets, de quand tu fais un métier engageant, ou quand tu t'engages dans ton métier tout le temps. Parce que justement, ce qui avant était un peu de ta vie perso, ton engagement par le fait des assos, ici, ça devient ton quotidien, où tu fais ça 8 à 10 heures par jour. Et je vais bien 10 heures avec cette intonation-là, parce que ça peut être plus parfois, ouais, en fonction de ton degré d'engagement. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à faire cet équilibre vie pro-vie perso, vu que je fais un métier dans lequel je m'engage et je m'épanouis plus tôt. C'est hyper compliqué de parfois dire stop. Et c'est un vrai travail que je suis en train de faire. D'ailleurs, c'est mon petit défi de l'année 2023. De trouver cet équilibre. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais voilà, je pense que c'est hyper important de maintenir cet équilibre vie pro-vie perso, même si on a des métiers engagés, parce qu'il ne faut pas que ça devienne... En fait, l'anxiété peut très vite arriver. Le fait de travailler sur ces sujets-là tout le temps, de vouloir s'engager tout le temps. Je prends un exemple. L'année dernière, je prenais vraiment à cœur des étudiants qui arrêtaient de me répondre en milieu d'année. Je me disais, mais pourquoi il ou elle ne veut pas continuer ? Et vraiment, je me cassais la tête et je faisais tout pour aller chercher. Maintenant, j'accepte que aussi des personnes n'aient pas envie de s'engager tout le temps, H24, comme je le veux, et c'est complètement OK. Et voilà, il faut juste faire cette mécanique mentale, mais je crois vraiment fort, et bien sûr que ça me questionne l'équilibre vie pro-vie perso. Enfin, il faut prendre du temps pour soi, il faut prendre du temps avec ses amis aussi, avec sa famille, ne serait-ce qu'aller marcher 10 minutes aussi, c'est hyper important pour se reposer.
Donc, pour toi, la distinction vie pro-vie perso, elle existe toujours. Et au contraire, il faut la garder et la maintenir pour un peu, parce que ton bien-être et ta santé mentale, finalement.
Oui, exactement. En ce moment, on parle parfois du burn-out de l'engagement. C'est un sujet qui revient souvent. Et en fait, j'y crois en ce burn-out de l'engagement. Quand tu fais ça tout le temps et que tu n'as même plus le temps pour toi, c'est compliqué. Et qui plus est, l'autre vice, c'est de prendre tellement les choses à cœur, de ne plus avoir de recul sur certains sujets, certaines actions qu'on peut faire dans son engagement. Et du coup, ça nie complètement à la collaboration qu'on peut avoir avec les autres personnes qui s'engagent avec nous sur un même projet.
Donc toi, ton conseil par rapport à ça, c'est quoi ? C'est d'apprendre à lâcher prise ?
Oui. Alors, et en même temps, c'est un conseil qu'on m'a beaucoup donné et que je trouvais que c'était pas très concret d'apprendre à lâcher prise.
Oui.
Mais c'est un truc tout simple, c'est se donner des bornes horaires. Si le métier que tu fais est aussi ton engagement, je pense qu'il faut se donner tout simplement des bornes horaires, de dire à partir de telle heure, je ne travaille plus, et je m'arrête, et c'est d'accord. Et de se donner des petits rituels. Je fais ça depuis le mois de janvier. J'essaie de me donner des rituels, surtout en fin de journée, qui m'obligent à couper ma journée. Et du coup, je réenchaîne le lendemain matin, pas plus tôt, à des heures normales de bureau, parce que dormir est précieux. J'ai appris ça aussi.
Effectivement, c'est important.
Donc ouais, se donner des petits rituels qui peuvent changer d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Mais se dire, voilà, au moins 2 soirs par semaine, c'est caler des choses, c'est pas mal. Et écouter ses amis quand ils vous disent d'aller boire un verre, ça peut être un bon prétexte pour quitter le bureau.
Finalement, pour un peu, du coup, en revenir à ce cheminement et à tout ton temps d'engagement, Comment tu vis maintenant, justement ? Donc, il y a quelques années, c'était des moments de solitude et d'incompréhension. C'est difficile parce que les enjeux te tiennent à cœur. Comment ça évolue maintenant et comment toi, tu le vis ? Est-ce que aussi, globalement, par exemple, ton entourage, tu disais, entourage te challenge toujours. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément changé d'avis. Comment tu vis tout ça?
Déjà, sur l'entourage, sur le fait qu'il n'ait pas changé d'avis, je ne suis pas certain de ça. Je pense qu'ils sont plus OK parce qu'ils me voient quand même... J'espère qu'ils me voient heureux dans ce que je fais. Quand même si parfois, il y a des moments de colère ou de bas, hein, et c'est complètement normal. Je pense qu'ils essaient toujours un peu plus de me challenger parce que l'entourage cherche toujours le meilleur pour toi, au-delà que toi, tu irais le chercher. Avec ses vices, bien entendu. Et la chose que je vis bien, c'est qu'aujourd'hui, je constate quand même que de plus en plus de personnes sont sensibilisées aux différents enjeux de société et ou environnementaux. Et donc, je le vis vraiment comme une aventure collective, en fait. Et collective, j'entends pas le monde entier où tout le monde va changer le monde, pas du tout. Avec mon cercle à la fois de collègues de boulot, qui sont aussi engagés, où on s'entend et on prend aussi du temps entre nous pour débriefer de certaines situations. Avec mes amis aussi, qui sont de plus en plus engagés sur ces sujets-là, donc on peut facilement en parler, et c'est facilement compréhensible pour eux. Et avec la famille, c'est vraiment le défi aussi d'aller les sensibiliser, eux, et donc d'ouvrir ce dialogue-là. Et du coup, je le prends vraiment comme cette aventure collective. Et je crois vraiment en cette force-là du collectif.
La force du collectif, et aussi ce que j'entends peut-être un peu dans ce que tu dis, c'est le fait d'incarner quelque chose, finalement, d'incarner tes valeurs et de les mettre en action tous les jours, ça a l'air d'avoir de l'influence sur les personnes qui t'entourent.
Oui, complètement. En fait, je suis un peu matrixé par ce que je fais tous les jours.
C'est le mot.
Mais complètement. Et du coup, dès que je peux caser une ou deux phrases en mode « Hey, n'oublie pas !» je le fais. Et c'est aussi le petit jeu. C'est aussi le jeu, quoi. Parce que ça fait partie de ta vie, finalement. Mon travail fait partie de ma vie de tous les jours, de 5 jours par semaine. 5 jours par semaine et 8 à 10 heures par jour, donc c'est normal d'en parler. Donc ouais, bien entendu, j'essaie d'influer ces valeurs-là. Et parce que j'y crois, en fait. Donc ça, c'est important.
Et aujourd'hui, dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu kiffes? Tu l'as dit, le kiff, c'est important.
Ouais, beaucoup de choses, en fait. Je pense que ce que j'adore le plus, hein, c'est les moments « off », entre guillemets, que je peux avoir avec... toutes les parties prenantes qui gravitent autour de mon boulot, que ce soit des étudiants, des lycéens, des enseignants, des professionnels, et même les collègues de boulot, et même mes potes aussi. Tous les moments off, j'entends, ça peut être tout simplement un verre qu'on boit après un événement, ou une discussion qu'on va avoir entre deux réunions ou autre. Ça, c'est ce que je kiffe le plus, parce qu'on apprend à se connaître également. On discute forcément de ce qu'on fait, des différents projets qu'on mène ensemble. Et ça, c'est génial, parce que c'est là où je m'enrichis le plus. Genre d'écouter les personnes, d'apprendre leur vécu, d'apprendre de leurs expériences et d'avoir leur feedback aussi. C'est ce qui m'enrichit le plus, et ça, c'est mon kiff. Et si on met les moments off de côté, que j'appelle ça, moi, ce que je kiffe, c'est vraiment le contact que je peux avoir avec les étudiants tous les jours, quoi. Avoir des étudiants qui nous pitchent leurs projets et nous, d'être là en mode... Trop bien si ton projet il avance, mais ce que je veux en premier, c'est que toi t'avances, que toi tu trouves ta voie. Ça c'est énorme en fait, puisqu'on discute tous les jours avec des étudiants qui sont hyper engagés et ça me donne le smile en fait.
Et c'est ça finalement ce que t'apprécies dans la coopération, parce que là, du coup, pendant tout ce moment ensemble, t'as beaucoup parlé du coopératif, c'est ça, c'est de découvrir d'autres personnes, c'est d'être capable de les voir avancer, de les voir. Quels sont les mots que tu mettrais derrière?
Derrière la coopération? Le premier mot que je mettrais, c'est l'écoute. Savoir s'écouter. Et c'est pas de l'écoute de je hoche la tête et je fais ouais. Ça, c'est pas de l'écoute. Genre vraiment écouter et prendre ce qu'on a à prendre des témoignages et des paroles de chacun. C'est énergivore hein, parfois, mais ça, c'est la partie la plus cool. Et de construire ensemble dans la coopération. De se dire parfois, on est. Deux personnes où les routes ne se seront pas forcément croisées, de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et d'essayer de construire ça ensemble. Et ça peut construire, c'est la même démarche avec l'amitié finalement, on essaie de se construire et on se découvre petit à petit. Et là dans les projets c'est pareil, aux étudiants de leur dire en fait pas de bol, mais tu viens de croiser ma route et moi j'ai envie de construire des choses avec toi. Et donc viens, on fait ça, on tente et on voit où ça nous mène.
Donc finalement ça te fait grandir toi et ça fait grandir le projet.
Ouais. Carrément.
Quels sont pour toi un peu les défis de ton secteur?
Il y en a plusieurs. Le premier défi, je pourrais le résumer par un chiffre plutôt. c'est qu'aujourd'hui, on a 9 jeunes sur 10 qui ont envie de changer le monde. Et sur ces 9 jeunes sur 10, il y en a encore 9 jeunes sur 10 qui ne savent pas comment faire.
Okay.
Alors que beaucoup de solutions existent, finalement. Et ça, c'est le principal défi, de donner les clés de l'engagement à chaque jeune. Et surtout, quand je dis chaque jeune, c'est quel que soit leur milieu, quel que soit leur genre et quel que soit leur âge. Parce qu'à 8 ans, on peut s'engager. Il faut qu'on arrive aussi à entendre qu'aujourd'hui, à 8 ans, un enfant peut avoir la parole. Et je dis 8 ans, mais ça peut être avant. Et ça, c'est les principaux défis. Et du coup, de faire comprendre aussi aux personnes et aux différents acteurs que s'engager, ça ne veut pas dire mettre à profit une journée complète par semaine ou avoir un temps énorme. S'engager, ça peut être une heure par semaine et c'est complètement OK, justement. Et ça est juste donner son temps régulièrement. Et on s'enrichit par ça. Et ça, c'est le principal enjeu. Le temps et donner les clés de l'engagement aussi.
Et quels sont les freins que tu rencontres aussi au quotidien ? Au quotidien ou pas d'ailleurs, hein. Les freins de manière générale.
Bon, le premier frein, je dirais qu'il est personnel aussi, c'est l'énergie. Il y a des jours où je suis hyper enthousiaste, comme aujourd'hui et la semaine dernière, parce qu'il se passe trop plein de bonnes choses en ce moment. L'énergie est hyper good vibe et du coup ça avance beaucoup plus vite quand tu mets de l'énergie. Il y a parfois où t'es complètement HS, bah, parce que c'est aussi le boulot, en tout cas pour moi, parce qu'il y a aussi les aléas de la vie perso qui peuvent arriver. Donc ça c'est le principal frein, et c'est aussi un frein externe, parce qu'il faut être aussi que les autres personnes soient en raccord avec ton énergie pour tenter de construire des choses avec toi. Ça c'est la première chose. Et après le principal frein, bah, c'est lié à la partie associative. Une de mes missions, c'est celle d'aller lever des fonds. Et aujourd'hui, ben, c'est l'équilibre à trouver de qu'est-ce que je vais pouvoir accepter de faire pour avoir l'argent qui va me permettre de proposer ces expériences transformatrices pour mes lycéens et pour mes étudiants. Et ça, c'est aussi un frein parce que ça demande du temps également. Et il faut aussi entendre aujourd'hui que dans le monde associatif, ben, il y a des projets, mais il y a aussi des personnes. Et donc, si les financeurs, vous m'entendez, il y a le fonctionnement qui compte aussi dans la partie financement.
Pas l'envie qui manque, c'est parfois les moyens.
Exactement.
Peut-être une dernière question par rapport à ton métier. Toi, comment c'est d'être au contact du coup, de ces jeunes à qui tu peux apporter des choses et que tu vois évoluer ?
C'est de l'apprentissage. Parce qu'en fait, moi, je leur apporte peut-être certaines choses. Ça se trouve, dans un mois ou dans 6 mois, ils ne se souviennent plus du tout de ce qu'est Enactus ou même de qui je suis. Mais par contre, moi, je me souviens de certaines leçons qu'ils m'ont apprises, eux, dans leur réaction au travers de différents ateliers où ils viennent gratter un petit peu le fond des sujets, notamment sur la partie sensibilisation qu'on peut faire ou les différents outils. Et les lycéens, parfois, et les étudiants nous mettent vraiment devant un fait accompli qui a ce problème-là. Et qu'aujourd'hui, il faut y aller et que toi, tu n'aurais pas pensé. Donc, du coup, je pense que j'apprends beaucoup avec eux. C'est le mot que je mettrais derrière.
Est-ce que tu as un exemple ?
Ouais, tout à fait. Qui me marque directement. L'année dernière, c'était des lycéens, du coup, dans la région de Nancy. 4 jeunes qui on leur demandait d'imaginer un projet. Et qui, en fait, eux, leur projet, c'est de faire en sorte de bien vivre dans leur quartier ensemble. Parce qu'ils me partageaient que leur inquiétude, c'était tous les jours, en observant par dehors leur maison, enfin leur appartement, de voir la fenêtre de la cuisine cassée, parce que leurs parents se seront pris des pierres, parce qu'il y avait beaucoup de jets de pierres dans leur quartier. Et donc c'est des jeunes qui avaient imaginé des ateliers du bien-vivre ensemble, entre les habitants de leur quartier, et ça passait par des pique-niques, des règles de vie qu'ils avaient imaginées, etc. Et ça m'a touché. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense les enjeux sociaux et environnementaux, on se dit de suite, comment on va diminuer le taux de CO2 qu'on émet ? Ben, en fait, le développement durable, c'est aussi la société. Et c'est aussi cette partie-là. Et du coup, ils m'ont tellement ému, et c'était tellement un vrai problème pour eux, qui faisait que ça permettait de régler plein de problèmes. Ils avaient pensé le nettoyage de leur cage d'escalier, pour dire, ben, tout le monde est content parce que ça sent bon quand on monte les marches. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais auxquels on ne pense pas forcément. Et ouais, franchement, ils m'ont marqué pour un bout de temps.
C'est génial. Est-ce que du coup, tu saurais d'ailleurs expliquer un peu peut-être ce lien entre problématiques sociales et problématiques environnementales, et comment en fait, c'est un même combat finalement ?
pour moi, aujourd'hui, on a un vrai problème de se dire comment sera notre planète dans 10, 20, 30 ans. Et encore, là, je vois sur du temps long quand je dis 30 ans. Les scientifiques nous expliquent que c'est demain, en fait. Comment on veut agir collectivement, ensemble, se dire qu'on va tous ensemble, tous les individus, s'unir pour lutter contre le réchauffement climatique, quand aujourd'hui, des femmes n'ont pas accès à l'éducation, alors que leurs frères qui ont le même âge, qui vivent dans le même village, y ont accès. Comment aujourd'hui on veut faire justement ce collectif, créer un collectif soudé pour, sauver notre planète, quand aujourd'hui, eh ben, y a des inégalités de milieu, quand aujourd'hui, si tu as un prénom qui a une mauvaise consonance, tu peux ne pas avoir accès à un logement. Enfin, c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut aussi régler. Et parce que quand on entend développement durable, c'est aussi développement de l'humain. Et c'est pas pour rien que, je pense, on peut les critiquer, mais que dans les objectifs de développement durable aussi des Nations Unies, il y a aussi ces enjeux sociaux qui rentrent en compte. C'est l'explication la plus claire que je pouvais donner là.
C'est un bon résumé, merci beaucoup. Du coup, maintenant, pour finir, dernière question. Quels seraient les conseils ? Tu nous en as donné plein, c'est cool à chaque fois, tu as rebondi avec des conseils, mais est-ce que là, quand même, tu en aurais certains, peut-être à répéter, parce que c'est toujours important, pour bien ancrer tout ça. Est-ce que tu aurais des grands conseils à donner, 3 maximum, je te limite, aux personnes qui nous écoutent et qui sont sur ces chemins d'engagement et qui vivent des choses comme toi, tu as pu le vivre, peut-être de solitude, de désemparement, enfin, des choses qui sont compliquées, pour affronter tout ça.
Oui. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est un conseil qui peut sembler basique, mais c'est foncer, en fait. Si vous avez envie de vous engager, ou si vous avez envie de découvrir quelque chose, quelle qu'elle soit, allez-y. Si ça ne vous plaît pas, il y a toujours la possibilité d'arrêter. Et du coup, foncez et ne vous forcez jamais, ça va de pair. Mais juste allez-y, tentez l'expérience, et dans tous les cas, vous en sortirez riche, pour le coup. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième, c'est ouvrir toutes les portes possibles. Ne jamais s'auto-censurer. Et ça me tient vraiment à cœur. C'est si vous avez envie, justement, bah, allez-y, ça revient le premier, mais ne vous fermez jamais des portes qui ne vous sont pas fermées. Je pense tout simplement, mais ça peut être dans les études, ne vous dites jamais que cette école ne vous prendra pas. Faites le dossier, faites le process. Allez-y, et au pire, elle ne vous prendra pas. Ben, tant pis, il y aura une autre porte qui s'ouvrira. Mais ouvrez-vous toutes les portes possibles. Et enfin, le dernier, pour moi, c'est prenez du plaisir, quoi. Enfin, en vrai, faites ça avec le smile, et même si échouer, parfois, c'est dur, on n'est pas aujourd'hui dans une société qui accepte l'échec facilement. Ben non, en fait. Genre, en échouant, c'est comme ça qu'on peut grandir et avancer. Et je dis ça avec le smile, donc vraiment, j'y crois.
Je confirme, il a un grand smile. Le kiff sera le mot de la fin.
Exactement.
Quoique, peut-être dernière petite question, est-ce que tu aurais des ressources à partager ? Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont aidé ? Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves importantes à partager ?
Une ressource qui va faire plaisir à une des pépites, tu vas te reconnaître, c'est écouter Tumoror, le podcast. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est pas une ressource, c'est... Ouvrez les yeux en bas de chez vous. Il y a plein d'assos qui peuvent vous aider à commencer à vous engager. Et même dans vos établissements, si vous êtes en études, etc., ben, poussez deux, trois portes. Allez les voir, questionnez-les. Au pire, vous faites connaissance avec des nouvelles personnes et c'est toujours chouette. Au mieux, ben, vous poussez la porte de l'engagement. Donc, allez-y.
Oh, c'était beau, ça. Le podcast que tu as mentionné, est-ce que tu peux rapidement nous dire de quoi ça parle ?
Oui, Tumoror, c'est Tumoror plutôt. Ah. C'est un peu un récit de voyage, parfois au travers de l'expérience de ces deux jeunes qui ont tout claqué pour partir en van faire le tour de l'Europe.
Célia et Léo.
Exactement. Je ne vous en dis pas plus. Allez écouter, c'est trop bien.
Super. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous tes conseils, merci beaucoup pour ton smile, merci beaucoup pour le message du kiff. Merci d'avoir échangé avec moi.
Merci à toi, c'était trop bien d'échanger.
J'ai pas de fin, c'est la fin. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les différentes ressources mentionnées dans la description. Si cet échange vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast des Pépites et aller liker, noter, commenter sur Apple Podcasts. Un prochain épisode arrive bientôt. D'ici là, vous pouvez retrouver les Pépites Vertes sur Instagram et sur LinkedIn. À très vite !